Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire. Une série, je vous le rappelle, qui est consacrée aux grands hommes et aux grandes femmes qui ont vraiment marqué le Québec dans toutes les sphères de l'activité humaine. Il sera aujourd'hui question du couple qui est à l'origine d'un grand mouvement, le mouvement Desjardins. Au tout début, la première caisse populaire de Lévis, qui a ouvert ses portes officiellement en janvier 1901, après un mois d'activité, elle avait un gros actif de 242,80 $. Eh bien, 114 ans plus tard, l'actif du mouvement Desjardins est de 229 milliards de dollars. Pour coordonner les activités de cette première caisse populaire, une poignée de bénévoles en 1901, eh bien aujourd'hui, pour faire fonctionner les 360 caisses populaires disséminées à travers le Québec et l'Ontario, il faut près de 46 000 employés dirigés par 500 officiers qui sont élus. Eh bien, à l'origine de ce grand mouvement qui fait la fierté des Québécois, il y a d'abord un fondateur, évidemment, Alphonse Desjardins, qui est né en 1854 et qui est décédé en 1920. Mais il y a aussi une femme, Dorimène, moins connue, mais qui a été très importante, qui est née en 1858 et qui est décédée 12 ans après Alphonse Desjardins, en 1932. Pour ce couple Desjardins, c'était absolument crucial de mettre en commun nos épargnes et de miser sur le coopératisme, la coopération avec ses valeurs d'entraide, de solidarité, de démocratie, parce que c'est par la coopération qu'on allait combattre un fléau terrible qui s'abattait sur le Québec de l'époque, les inégalités sociales, et aussi par la coopération qu'on allait peut-être freiner ce mouvement, freiner cette plaie qui était l'infériorité économique des Canadiens français, qui menait à l'exode de beaucoup de ces Canadiens français vers les États-Unis à l'époque. C'est aussi par la coopération, pensait-il, qu'on allait combattre les usuriers, ces personnages sans scrupules qui exploitaient souvent les pauvres gens dans les communautés isolées du Québec. Et c'est aussi par la coopération qu'on allait peut-être freiner ce mouvement, un peu irréversible peut-être, d'influence des banques. Les banques qui, à l'époque comme aujourd'hui, sont des corporations privées qui visent une chose, le profit. Eh bien, pour nous parler de ce grand mouvement, le mouvement Desjardins, nous invitons un monsieur qui est d'abord un avocat. Un avocat qui a contribué à créer plusieurs caisses populaires, qui était tellement convaincu des valeurs du mouvement Desjardins qu'il en est devenu même le président de 1987 jusqu'à 2000. Il a par la suite beaucoup enseigné, beaucoup écrit, et il s'est fait l'un des plus grands propagandistes des valeurs de la coopération. Je vous demande d'accueillir avec chaleur Claude Bellan. Bienvenue.
Bonjour. Bonsoir.
Alors, Claude Bellan, bienvenue à cette série des figures marquantes. Merci d'être là.
C'est un grand plaisir. Bonsoir à vous tous, à vous toutes. Il n'y a plus de monde qu'aux assemblées de caisse.
C'est bon signe. Claude Bellan, qui est aussi président de la Fondation Lionel Groulx, qui est un peu à l'origine de cette série de conférences. Alors, M. Bellan, vous venez tout juste, un petit peu de publicité, vous venez tout juste de faire paraître votre autobiographie, une carrière au service du coopératisme, dans laquelle vous expliquez un peu l'importance que ça a eu pour vous et la figure d'Alphonse Desjardins. Quand la croisez-vous dans votre vie? Quand vous avez découvert un peu la vie et l'œuvre de... Parce que sous votre présidence, je pense que vous avez vraiment fait beaucoup pour qu'on connaisse mieux l'histoire du mouvement Desjardins et d'Alphonse Desjardins.
J'aime beaucoup la question parce que quand à la maison, on parlait de Desjardins, évidemment, on demande toujours pourquoi ça s'appelle Desjardins. Quoiqu'on disait moins Desjardins que populaire dans le temps, c'était les caisses populaires.
Du vivant d'Alphonse Desjardins, ça s'est appelé les caisses populaires.
Oui, absolument.
Point à la ligne.
Point à la ligne. Oui. Alors, mais on parlait quand même du fondateur, et je me souviens d'avoir lu un texte. Un texte dans lequel il disait qu'il avait compris très jeune dans sa famille que pour que la famille soit heureuse, il fallait que chacun des membres contribue au bonheur de tous. Autrement dit, on s'entraidait, on était une famille heureuse, et Alphonse Desjardins disait la même chose de lui. Je disais, pourquoi on ne fait pas ça dans la société? Pourquoi le projet de société, ce n'est pas évidemment que d'avoir une éthique du bien commun où le bonheur collectif est plus satisfaisant que le bonheur individuel. Je pense que je ne me souviens pas du nom du chanoine qui avait dit...
Parquet.
Nous, nous, les Canadiens français, on n'est pas ici pour faire de la fumée dans les usines. On est ici pour la gloire de Dieu, en fait.
Pour les idées.
Et c'est ça, pour les idées. Nous, c'est ça notre mission.
On laisse ça aux Anglais.
Mais pendant longtemps, finalement. Parce que quand Alphonse et Dorimène, j'y arrive, naissent, quand ils ont l'âge de raison, on commence à entendre des discours où des gens de l'élite canadienne-française disent aux gens, je vous en supplie, il faut ennoblir l'industrie, il faut s'occuper des affaires. Et ça, ça ne dérangeait plus les Anglais, parce que c'est après 1837, les Anglais se sentaient solides ici, que les Canadiens et Français tentent de faire des affaires, ça ne les inquiétait pas beaucoup. Alors, Alphonse grandit dans cet environnement où les Canadiens français sont très respectueux, je dirais, pour toutes sortes de raisons, de la nation anglaise ou de l'intérêt des Anglais, et évidemment, sont des agriculteurs ou plusieurs sont des fonctionnaires au gouvernement du Québec. Quand vous me demandez dans quel milieu Alphonse a vécu, bien, il a vécu dans cette nation-là, une famille, je dirais, très pauvre.
Donc, il est dans une famille pauvre. Je pense que son père était malade.
C'est-à-dire que son père était un membre d'une famille de 12 enfants. Et son père, du père, il tenait absolument à ce que les enfants restent sur la ferme, vivent de la ferme. Mais quand vous êtes rendu à être obligé de nourrir 12 familles, c'est compliqué. L'épouse de François Roy Desjardins, n'en pouvait plus. Elle disait, moi, je m'en vais. Alors, il décide de quitter la ferme familiale et viennent s'installer à Lévis. Et c'est là que Alphonse naît. Il est le huitième d'une famille de 11. Alors, sauf que, comme il est à la fin, les plus jeunes meurent très, très jeunes. Un meurt à 5 ans, l'autre meurt à 3 ans, et Alphonse, lui, est au milieu de ça, ce qui veut dire que entre le dernier né et son plus grand frère, il y a un écart important. Alors, on dit d'Alphonse, il y a beaucoup de biographies qui ont été écrites sur lui, on dit d'Alphonse qu'il était seul dans une grande famille. Pourquoi? Parce que son papa ne travaillait pas. Il faisait des petites sorties, mais pas très longues, mais il n'était pas en état vraiment d'aider financièrement, puis pas intellectuellement non plus. Madame Desjardins, elle, évidemment, c'est différent. Elle décide d'être une femme de ménage. Elle travaille pour les gens qui sont plus riches à Lévis, mais part très tôt le matin, revient tard le soir. Ce qui fait qu'Alphonse doit prendre ses décisions lui-même. Il connaît l'insécurité. Il connaît la nécessité de bien mener sa vie tout en aidant la famille. Pour lui, ça, c'est très, très important.
C'est intéressant aussi de se pencher sur le milieu d'origine de Dorimène. Parce que Dorimène,
c'est justement.
Elle est aussi une Desjardins, mais ce ne sont pas des consanguins. C'est vraiment, ils sont très, très éloignés au niveau des branches familiales. Elle est originaire de Sorel, et là, c'est vraiment intéressant. Donc, elle est originaire de Sorel, mais elle va vivre à Lévis. Pourquoi?
Dans une famille très nombreuse aussi. Elle est le cinquième d'une famille de 11. Mais dans cette famille-là, on meurt beaucoup. Il n'y aura finalement que 4 ou 5 survivants. Alors, quand Dolimen arrive au monde, les parents, qui sont des illettrés, ils ne savent même pas écrire leur nom. La maman est un peu inquiète. Et elle pense à sa sœur, qui est à Lévis, et qui est mariée à un homme qui, lui, a beaucoup de sous, à une famille très à l'aise. Alors, Dolimen est adopté, pas légalement, mais adopté par cette famille riche. Alors, la famille riche, dès qu'elle a l'âge de 7 ans, lui l'inscrive dans un pensionnat dans lequel elle vivra, sauf dans les temps de vacances, elle vivra pendant 10 ans, jusqu'à l'âge de 17 ans. Ce qui fait que Dolimen est une femme, une rare femme, qui suit un cours classique intense et qui se distingue par son intelligence, par sa capacité, son désir d'apprendre. Elle, il y a des gens qui disaient, s'il y a une main invisible dans le monde, ils étaient en train de préparer une femme pour être l'épouse d'un homme qui deviendrait un grand homme. Alors, Dolimen, quand elle sortira du pensionnat, restera souvent invitée par le collège à venir faire des conférences, à représenter le collège auprès des clientèles possibles. Donc, on peut deviner qu'elle a été d'une influence incroyable auprès d'Alphonse. Lorsque Alphonse avait des projets, je suis sûr qu'il avait une oreille qui était très attentive et qui l'aidait à régler ses projets.
Alors, on vient de parler de l'éducation de Dorimène, donc un cours classique. Pour l'époque, c'est quand même une très belle formation, réservée à toute une petite minorité de gens. Alors que Alphonse Desjardins, lui, ne fera pas le collège classique.
Non, il va faire l'école primaire, il va avoir de bonnes notes. Ensuite, on l'inscrit au collège, mais c'est certainement pas son père qui peut assumer les coûts. Alors, on devine que ce sont ses frères. Son frère, quelques-uns étaient devenus des fonctionnaires, ils avaient des bons salaires, qui apparemment assumaient les coûts de l'éducation de leur jeune frère. Sauf qu'on ne sait pas pourquoi. Après 2 ans, il abandonne, il devient instable. Les résultats ne sont pas bons. Et finalement, il quitte le collège. Mm-hmm. Alors là, il sera pendant 1 an à ne rien faire. Alors, un de ses frères, qui était dans la milice, chez les
Louis
militaires,
George, son frère aîné,
lui suggère de faire 1 an de stage à Fort Garry et de faire son stage militaire. Alors, Alphonse le fera. En revenant, et là, il décide, à 18 ans, de devenir journaliste. Il s'inscrit comme journaliste à l'Écho de Lévis. Et curieusement, l'Écho de Lévis lui donne un poste à Ottawa pour être un correspondant de l'Écho de Lévis à Ottawa. Je dis surprenant parce qu'à la fin de l'histoire, on sait qu'Ottawa a été très important dans la vie d'Alphonse Desjardins. Alors, il fait son stage là. Quand il était jeune, puis quand il commence à rencontrer des gens, il disait souvent, « Moi, j'ai besoin de rendez-vous de la solidarité. » Parce que chez lui, il était un peu isolé. Quand il avait l'occasion de rencontrer des gens, de parler aux gens, il trouvait que c'était des moments privilégiés. Alors, il a été très actif comme jeune homme dans sa localité. Alors, il a finalement pour obtenir un poste au gouvernement du Québec comme éditeur des débats. Et il a obtenu ce poste-là parce qu'il avait écrit des articles toujours, puis travaillé pour des journaux qui étaient plus du côté du Parti conservateur. Mais ensuite, il y a eu un changement de gouvernement.
Oui, c'est ça.
Et même en ces temps-là, quand arrivait un nouveau gouvernement, on changeait aussi certains fonctionnaires. Alors, l'éditeur a été congédié. Et là, il s'est retrouvé sans emploi. Alors, il est retourné travailler au journal, mais cette fois, le journal Le Canadien, mm-hmm. à Lévis. Et comme il aimait beaucoup les rendez-vous de solidarité, ben, il a fait en sorte de rencontrer une jeune fille qu'il voyait souvent à Lévis, qui s'appelait Dorimène Desjardins. Et cette solidarité a été si forte que finalement, ils se sont mariés. Quand ils se sont mariés, Alphonse, évidemment, était capable de pourvoir aux besoins de la famille. Ça a duré un bon bout de temps. Mais là aussi, à un moment donné, la politique s'en mêlant, il a perdu son poste et il a été en chômage pendant quelques mois. A créé un nouveau journal, mais qui n'a pas duré. Mm-hmm. Et Dieu merci, finalement, à Ottawa, les conservateurs sont élus. Il a beaucoup d'amis du côté des conservateurs. Le sténographe officiel francophone prend sa retraite. Alors, on nomme Alphonse Desjardins, sténographe officiel francophone à Ottawa. Vous allez me dire... Il connaissait la sténographie. Eh oui, à cette époque-là, au collège, on enseignait la sténographie.
Mais là, pour le côté pratico-pratique, ça veut dire qu'il continue de demeurer à Lévis. Il est très attaché à sa communauté, mais il va vivre plusieurs mois par année jusqu'à sa mort en 1920.
Ouais.
Parce que ça, c'est une chose qui est frappante dans la biographie d'Alphonse Desjardins. Il n'a jamais vécu du mouvement Desjardins. Enfin, du mouvement des caisses populaires.
Non, pas du tout.
Il a toujours conservé son indépendance en travaillant à Ottawa.
On en parlera plus longuement tout à l'heure.
Donc, il vivait comme ça, dans deux villes, au fond.
Oui. Alors, comme sténographe, évidemment, là, il revenait. Mais là, il était extrêmement actif. J'ai une liste, là, c'est quand même assez impressionnant. Pour lui, il se rend compte que la ville de Lévis... ça n'a pas de sens, il faut mm-hmm. qu'elle se développe. Mm-hmm. Alors, sur le plan de... À Lévis, il n'y a même pas de banque.
C'est ça, ben oui.
Il n'y a même pas de banque. Et vient s'installer, à force de faire des démarches, vient s'installer une caisse d'économie, mais pas les caisses d'économie qu'on connaît au Québec, là. Mm-hmm. Une caisse d'économie qui était plutôt d'origine américaine et qui ne faisait que la collecte d'épargne. Mais qui ne faisait pas de crédit. Mmh. Il n'y avait pas beaucoup de gens d'affaires à Lévis, mais il y avait des individus qui avaient besoin de crédit, mais non, il fallait aller à Québec quand on voulait emprunter. Et ça le choquait. Il disait, comment ça fait qu'on n'est pas... Il fait des démarches, parce qu'il s'inscrit comme membre de la Chambre de commerce de Lévis. Il fait des démarches auprès d'une banque qui s'appelle la Merchant Bank, et qui vient s'installer à Lévis, et qui, dans l'espace de quelques mois, réussit à recevoir 1000 Lévisiens qui s'y inscrivent. Et disait, ça fonctionne, ça. Sauf qu'encore là, la Merchant Bank consentait très peu de crédit. Et comme l'épargne qu'elle réussissait à percevoir, c'était pas tellement intéressant, la Merchant Bank a finalement par quitter. Alors là, il se dit, ça n'a pas de sens. Alors, il écrit une lettre, puis on voit que M. Desjardins, je pense, il peut se fâcher. Il fait un discours dans lequel il dit, ce qui nous manque, disons-le franchement, sans fausse honte comme sans crainte, c'est une connaissance plus approfondie des incomparables avantages que nous possédons et que nous laissons dormir dans une très coupable inactivité. N'est-il pas grandement temps que nous sortions de l'espèce de torpeur où nous avons été que longtemps plongés et que nous ouvrions les yeux sur notre situation? Ça n'a pas beaucoup d'effet. Alors, il fait une deuxième tentative. Il écrit aux 74 membres de la Chambre de commerce de Lévis en disant, on fait une réunion samedi prochain dans la salle des artisans. Et vous êtes invité parce qu'il faut absolument qu'à Lévis, on se réveille. 14 membres sur 74 assistent à la réunion. Pour lui, c'est vraiment...
C'est un coup de massue.
Un coup de massue. Alors là, il se lance dans une série d'activités. Il devient membre de la Société Saint-Jean-Baptiste. Il crée un club de jeunes, des jeunes qui n'ont pas la chance d'aller très loin dans leurs études. Il crée comme un cercle littéraire dans lequel il accumule les journaux, accumule des livres. Il demande aux jeunes de les lire. Oui. Il se donne des conférences, etc.
C'est un littéraire aussi, Alphonse Desjardins. Il lisait beaucoup, il écrivait.
Ah oui, tout à fait.
Quand il est décédé, on a recensé près de 1000 livres dans sa bibliothèque.
Tout à fait. Il est membre actif de la Société Saint-Jean-Baptiste. En plus, il participe à des œuvres de charité, la Société Saint-Vincent-de-Paul, une congrégation des hommes de Notre-Dame-de-Lévis, etc. Il est partout. Il est partout.
Et pendant ce temps-là, il travaille.
Et pendant ce temps-là,
il y a des enfants.
Dorimène l'aide dans ses discours, l'aide dans toutes ses activités. Elle l'appuie constamment. Alors, une fois marié, évidemment, il ne peut pas se permettre de ne pas avoir d'emploi. Alors, quand il obtient le fameux poste de sténographe officiel à Ottawa, là, vraiment, c'est la sécurité d'emploi.
C'est ça, sécurité.
Tant et aussi longtemps que les conservateurs seront au pouvoir, au moins. Mais il sera là jusqu'à à la fin de sa vie.
Les libéraux vont le garder, ils prennent le pouvoir sous laurier, mais ils vont le garder.
Ils vont le conserver.
Et là, il est comme au cœur de l'action. Il est là au Parlement, à Ottawa. Il suit les débats, forcément, c'est son travail. Mais là, il se produit un événement. Il se produit un événement qui a été pour lui une sorte de déclic. Comme vous le dites, il tentait d'attirer une banque à Lévis, ça ne marchait pas vraiment. Et là, il y a un événement qui est vraiment important, ça se produit en avril 1897. C'est un député montréalais, anglophone, Michael Quinn, qui présente un projet de loi privé pour combattre l'usure. Hein. Vous savez, les fameux séraphins poudriers, là, c'est pas juste l'imagination de Claude-Henri Grignon. Il y avait au Québec des séraphins poudriers qui existaient un peu à travers le Québec. Et il y en avait un, visiblement, que voulait combattre ce député Michael Quinn. Et ça a été un déclic. Expliquez-nous.
Alors, évidemment, même si Quinn parle en anglais, Alphonse Desjardins entend tout ça. Et pour lui, c'est un choc. Là, il vient de comprendre que dans son coin de pays à lui, qu'au Québec, l'usure, les usuriers font de bonnes affaires. Les commerçants ne réussissent pas à progresser. Et là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Même les cultivateurs perdent leur ferme avec des jugements comme celui-là. Oui. Pour un emprunt de 500 $, le juge condamne à payer 5 000 $ d'intérêt.
En fait, c'est pire que ça, c'est 150 $.
150 $.
Il emprunte 150 $, puis il est condamné à payer 5 000 $.
C'est ça.
Ça, c'est juste à cause du taux de usuraire prohibitif.
Oui, tout à fait.
Et un jugement légal rendu en cour.
Oui. Alors, on se posait la question, est-ce que c'est le palais de justice ou c'est le palais de la loi?
Oui, voilà. On était loin de la justice.
Mais de toute façon, pour Alphonse Desjardins, c'est vraiment l'étincelle qui fait qu'il commence à penser à créer quelque chose de nouveau. Et comme il est sténographe francophone, à Ottawa, il y a beaucoup de temps libre, alors...
oui, les discours se passent plus en anglais.
Alors, il passe beaucoup de temps. Il passe beaucoup de temps à la bibliothèque du Parlement. Et là, il fouille. Et il trouve un livre qui s'appelle « The People's Bank ». D'un Monsieur Wolfe. Monsieur Wolfe étant le président de l'Alliance coopérative internationale. Parce que les coopératives, à l'époque, pas nécessairement des coopératives financières, mais à l'époque, il en existait partout. Il lit ce livre-là, puis il découvre qu'il existe des coopératives d'épargne en Allemagne, des coopératives de crédit en Italie, un peu partout dans le monde. Alors, il prend sa plume, il écrit à M. Wolff, puis il dit, pouvez-vous m'expliquer comment ça fonctionne, une coopérative d'épargne?
Avec le papier en tête du Parlement, donc ces gens-là pensent qu'ils s'adressent à un membre du Parlement. Pas plus grave, hein?
Ben, j'ai une copie ici d'une lettre qui est vraiment la copie de la lettre que M. Desjardins écrira en 1900 à M. Wolff en lui disant « Cher monsieur et ami ». Il écrit puis il dit « Ce que je viens de comprendre, c'est que dans ce nouveau genre d'association, ce n'est pas le capital qui domine, qui fait la loi et qui règle tout. Ce n'est pas le capital, c'est la personne. Le capital n'est que l'accessoire, non le principal. La coopération a ceci de particulièrement attachant, c'est qu'elle étend ses bienfaits à tous. C'est l'union pour la vie, non la lutte pour la vie. Et pour assurer des bases solides, il ajoute qu'il est important de regrouper les membres dans une petite unité territoriale. Condition essentielle de succès, dit-il, de contacts intimes et nombreux par lesquels les intéressés peuvent se mieux connaître, s'apprécier réciproquement avec plus de justice, tant au point de vue moral qu'économique. L'unité paroissiale nous a paru réunir toutes ces qualités à un si haut degré qu'elle est pour nous tous la cellule économique idéale, le cadre parfait où doit fonctionner une telle caisse. Déjà, là, il voit déjà un réseau s'établir. Il souhaite la multiplication de ces petites unités.
Donc, il y a ce déclic de 1897. Il écrit à ces gens qui ont animé, fondé des mouvements coopératifs à travers le monde. Mais comme on s'en parlait avant cet entretien, il y a comme des modèles qui existent,